On est attaqué. Bon, c'est l'heure de passer au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Et commencer le show en émotion même sur mon Canada.
T'as les yeux pleins d'eau, Jeff, arrête là. Non.
Antonin Iaccarini, avant qu'on parle d'un discours qui m'a pas vraiment amené d'émotion, c'est-à-dire celui de François Legault. Breaking news, la commissaire à l'éthique qui envoie un blâme à André Laforêt, c'est comme ça qu'on
oui.
peut le dire?
Oui, dans le fond, ce que la commissaire à l'éthique a dit à André Laforêt, c'est qu'elle aurait dû agir autrement dans le cadre d'un dossier. Juste un petit rappel des faits de cette histoire. Il y a quelques mois, on apprenait que André Laforêt, qui est ministre de, qui était ministre à l'époque de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre des Affaires municipales, ça a moins rapport avec le dossier, mais député de Chicoutimi aussi. André Laforêt, avant d'être en politique, elle était propriétaire d'un service de garde, l'Académie des petits, des mini-amours.
Oh, les mini-amours.
Ah, les noms de garderie, parce que ça fait toujours rire. Ouais. En partant en politique, elle a légué, elle a donné sa garderie à ses filles, donc c'est resté dans la famille. Il y avait un citoyen qui se plaignait des pratiques administratives de la garderie. Je vous épargne les détails parce que c'est pas très important dans l'histoire. Mais cela dit, le citoyen a contacté sa députée, André Laforêt, qui est la maman des propriétaires et qui est l'ancienne propriétaire de la garderie. Mme Laforêt s'est mêlée de l'histoire, a défendu les pratiques administratives. Bref, elle s'en est mêlée. Et elle était en conflit d'intérêts. Parce qu'elle n'est pas neutre dans cette situation-là.
Tu appelles ta députée. Propriétaire et députée.
C'est tes filles qui sont propriétaires. Ça, bon. Donc, elle aurait dû dire aux citoyens, écoutez, je suis en conflit d'intérêt dans ce dossier. Donc, je vais vous référer, par exemple, au ministre de la Famille ou à un autre député de la région, par exemple. Et elle ne l'a pas fait. Moi, honnêtement, je trouve que ce n'est pas la fin du monde.
Ben, moi non plus, là.
Premièrement, je ne vais pas la lapider sur la place publique pour ça. Puis, je trouvais que, tu sais, le citoyen a enregistré l'appel, là.
Fait qu'on ça s'entend sonne... déjà qu'en partant, c'est un citoyen que ça tentait de faire du chichi, là.
Ben, il voulait clairement la pogner. Puis, tu sais, quand tu es ministre régional ou député, tu as plein de citoyens qui se tournent vers toi pour plein de dossiers. Est-ce qu'elle aurait vraiment dû se dire, écoutez, là, je ne suis pas la bonne personne dans ce cas-ci? Effectivement. Mais moi, je retiens aussi qu'il l'a appelé sur son cellulaire. C'est quand même une députée qui est accessible.
Clairement.
Est-ce qu'elle sera accessible pour les autres dossiers qui ne sont pas liés à ses filles? J'espère que c'était le cas aussi à l'époque. Cela dit, est-ce qu'on peut parler du timing de cette décision de la commissaire à l'éthique?
Alors qu'elle est partie justement pour briguer la mairie de Saguenay.
En pleine campagne électorale.
Elle est en avance de façon fulgurante dans les sondages. 47% des intentions de vote dans le sondage de Radio-Canada. Là,
donc, d'après moi, là, ce blâme-là, tu sais, quand même qu'elle perdrait 3 points, elle a beaucoup d'avance sur ses adversaires politiques. Mais c'est sûr que si j'étais la commissaire à l'éthique, je me poserais quand même la question, est-ce que ça devient pas, un élément perturbateur dans une campagne électorale? En même temps, c'est pas son problème qu'André Laforêt soit en campagne électorale. Fait que, bon, bref, je pense pas que ça va être la fin du monde, cela dit. Elle a une petite tâche à son dossier, Mme Laforêt.
C'est ça. Exactement. François Legault a fait son discours hier, un discours quand même assez rapide de 45 minutes. Ce que je te propose, Antonine, c'est qu'on va faire un genre de beat the clock. C'est comme dans le temps, là, d'un bar, parce que Mathieu n'a pas connu ça, parce que ça n'existe plus. Là. Mais dans le temps d'un bar, tu avais un beat the clock, admettons, de 10h à 11h, c'était une pièce. 11h à minuit, 2 piastres. Minuit à 1, 3 piastres, les drinks. Puis là, ça montait toujours comme ça.
C'est ça. Une pièce. Vous autres, les filles, ça coûtait pas une scène, là, généralement.
Ouais, c'est ça, vous autres, les filles.
Attends, non, mais
il y avait soit un gars qui vous le payait, on faisait des soirées gratuites pour les filles.
C'est Ladies Night!
C'était normal, ça attirait les gars.
Jeff, ils peuvent ramener Beat Tuck Tuck puis mettre des tarifs les plus élevés de ça. Ça va quand même mettre moins cher que présentement.
Exactement, parce qu'on avait les Beat Tuck Tuck. Fait que je te propose ça. On écoute un extrait de François Legault et on réagit rapidement en quelques phrases. On commence avec l'islamisme radical.
Un autre phénomène qui est en montée au Québec, c'est celui des groupes politico-religieux qui s'attaquent à certaines de nos valeurs communes, comme la laïcité. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux qui s'attaquent à ces valeurs avec le plus d'intensité. Encore là, je vais être bien clair, je ne vise pas les Québécois de confession musulmane ou qui sont originaires de pays musulmans. Je parle des islamistes radicaux, un groupe de personnes qui tentent par tous les moyens d'imposer leurs valeurs, de contester nos valeurs et en particulier le droit des femmes à l'égalité. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On ne va pas laisser personne s'attaquer à la liberté chèrement acquise par les Québécoises depuis des décennies. Jamais!
Les ovations. Premièrement, Cyril, je vais te poser une question avant qu'on réagisse là-dessus. Pourquoi il y a autant d'ovations dans un discours? Bon, on ovationne aux 3 minutes. Là.
Ça, moi aussi, je trouve que c'est l'enfer. Puis on n'est plus habitué parce que dans les périodes de questions, c'est interdit maintenant d'applaudir parce qu'on perdait un temps fou à s'applaudir et à donc se trouver bon. Donc là, il en profite. Là. Maintenant, quand il y a une occasion, puis c'est permis d'applaudir. Oui,
mais c'était épouvantable. Il finissait un sujet, puis là, c'était l'ovation pendant 2 minutes.
Déjà que c'était mince un peu, des fois, ouais, en termes de détails.
Oui, puis honnêtement, islamistes radicaux, puis je vais commencer, tu commenceras le prochain sujet. T'sais, vous le savez, je suis pour la laïcité. Mais là, de la mettre dans un discours du premier ministre, l'islam radical, je le sens pas. Je pense pas qu'on le sent tant que ça à Montréal. Et de toute façon, il y a des lois qui existent là-dessus pour des propos haineux. On peut aller arrêter les gens, les poursuivre en justice. Fait que pourquoi ça s'est retrouvé dans le discours du premier ministre si ce n'est que pour essayer d'attirer des votes?
D'abord, les lois sont pas suffisantes en ce moment. On a des gens comme Adil Sharkawi qui disent des propos qui sont haineux et
ouais,
qui n'ont pas d'accusation.
Devrait t'arrêter. T'as raison.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est sûr que de nommer les islamistes, parce qu'on pourrait dire toute religion qui met en danger les droits des
toute
femmes,
extrémiste, exactement.
On va arrêter ça. Mais il a décidé de nommer. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'était nécessaire? Puis c'est pas pour rien qu'il commençait par sa phrase par « soyons honnêtes », il savait que ça allait brasser. J'ai beaucoup réfléchi à ça hier après-midi et honnêtement, je pense qu'il faut le dire. Ce qui s'est passé à l'école Bedford à Montréal, c'est pas unique. Il y a plusieurs écoles. Je comprends que là, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est pas un problème. C'est correct, mais on a un problème dans certaines écoles où des professeurs homosexuels se font harceler. Mm-hmm. Ont de la difficulté à donner leurs cours ou des intervenantes, des enseignantes femmes se font dire qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans un local ou dans un autre ou de rentrer dans la classe d'un enseignant parce que ça va à l'encontre de ses valeurs, des prières dans les classes, etc. Il y a des moments où le droit de religion entre en contradiction. Puis là, je veux juste parler de l'égalité homme-femme. Puis je suis une femme, puis ça me touche beaucoup. Parce qu'on voit les droits des femmes qui reculent un peu partout. C'est pas toujours à cause des islamistes radicaux, par exemple. Hein? On a des toutes sortes de radicaux de toutes sortes de religions, ouais. Effectivement.
Il y a un politicien de l'autre côté de la frontière, je pense, qui fait reculer le droit des femmes.
Oui, puis qui décomplexe beaucoup de masculinistes. Ouais. Il y a toutes sortes de phénomènes en ce moment. Mais comme femme... J'ai envie que tous les partis politiques, pas seulement la CAQ, j'aimerais que tous les partis politiques s'engagent à protéger les droits des femmes. Je pense que c'est un acquis qu'on a chèrement payé, pour lequel on a travaillé et qu'on ne doit pas reculer. Par exemple, à la demande de certains accommodements de certains groupes pour des questions de religion qui rentrent en contradiction avec l'égalité homme-femme ou avec les droits des personnes LGBTQ, on n'a pas de compromis à faire là-dessus. Vous pouvez pratiquer votre religion. Il n'y a personne qui vous empêche de pratiquer votre religion. Donc, je sais que c'était de bon goût et de bon ton de dire que ça n'avait pas de bon sens, le discours du PM, là, qu'est-ce qu'il a dit. Mais j'invite les gens à passer par-dessus la politique et à réfléchir au fond des choses sur cet enjeu-là qui est tellement important. Et c'est un phénomène qui existe, peut-être moins en région, peut-être moins à Québec, mais qui existe néanmoins à Montréal.
Je vous invite à réagir 418-971-1021 justement sur les différents extraits qu'on vous fait jouer de François Legault. Deuxième extrait, François Legault attaque les syndicats.
Depuis qu'on forme le gouvernement, on a conclu des dizaines d'ententes avec les employés du secteur public. Les syndicats ont leur utilité dans une société et au Québec, ils sont particulièrement favorisés, ne serait-ce que par la Formule RAND. Mais ce régime avantageux vient avec une responsabilité pour les dirigeants syndicaux. Malheureusement, le Québec est le champion des grèves qui privent les travailleurs de revenus pendant des semaines, des grèves, comme on le voit actuellement, dans le transport en commun, qui empêchent des milliers de personnes d'aller travailler, de recevoir des soins, des assemblées syndicales qui se tiennent aux petites heures du matin, des dirigeants syndicaux qui utilisent les cotisations des travailleurs pour contester une loi sur la laïcité que ces mêmes travailleurs appuient et des dirigeants syndicaux qui manquent de transparence sur l'utilisation de leurs cotisations syndicales. C'est un système de pratique qui est dépassé, qui qui nuit aux travailleurs, qui nuit aux citoyens et qui nuit au Québec tout entier.
Oh, j'ai laissé une petite ovation.
Oui, t'es aime, hein?
J'aime ça. J'aime payer
à pour nous remettre dans l'ambiance.
Syndica, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, écoute, je pense que ça va être populaire. C'est des mesures qui vont être populaires. J'ai trouvé, par contre, que la justification était beaucoup dans les anecdotes. Tu sais, c'est sûr, ça flash de dire les dépenses, tu sais, qui se retrouvent sur la une du Journal de Québec ou Journal de Montréal, etc. Mais la réalité en arrière de ça, c'est qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par la CAQ qui ont eu tellement de difficultés à mettre en place justement à cause de ce qu'on appelle le carcan syndical. Et ça, ça a beaucoup choqué François Legault, puis c'est une ritournelle qu'il a depuis toute sa vie en politique. Mais par exemple, quand on a voulu augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires et mieux les payer, mais là, on se butait à des autres professions au sein des mêmes syndicats qui voulaient eux aussi avoir une augmentation de salaire, etc. C'est le genre de choses, quand on a voulu mettre plus de flexibilité dans le système de santé aussi, on s'est buté à des limites syndicales. Et ça choque énormément François Legault et son équipe. Ils veulent être en mesure, dans la dernière année, de faire des choses qui vont fonctionner. Puis ils veulent se libérer de certains de ces obstacles-là. Puis évidemment, les syndicats disent c'est les droits des travailleurs qui vont écoper. Moi, je pense que politiquement, ça demeure très, très bon, là.
Oui, exactement. Puis moi, honnêtement, je suis en accord avec François Legault quand il parle de autres responsabilités que les syndicats se sont attribués. Tu sais, moi, voir Magali Picard à Dubaï là, pour combattre les grandes pétrolières, là. Dans le Québec, puis gère donc les relations syndicales, les relations de travail. Mais ça, moi, je comprends pas pourquoi le syndicat s'implique dans les causes environnementales. C'est pas de son ressort.
Est-ce que c'est au gouvernement de décider ça ou ça serait aux membres?
Ben, ça serait aux membres.
Je me pose la question.
Mais le problème, c'est que dans les assemblées syndicales, il y a encore trop, tu sais, pour l'avoir vu puis avoir parlé avec des gens, il y a encore trop de gros bras qui s'organisent
qui font
pour
la
que
loi.
Ça soit le message, exactement, ouais. Qui font la loi. Et ça, dans ce sens-là, les seuls qui peuvent les sortir du bourbier, c'est le syndicat eux-mêmes. Par exemple, l'exemple frappant, c'est le RTC, les gars d'entretien qui demandaient 30 % de salaire. La grande centrale syndicale de l'SSN a dit « Savez-vous quoi? Vous ne nous embarquerez pas là-dedans. Ça va être 18 puis ça s'arrête là. »
Donc, il y a comme autorégulation.
Oui, exactement. Mais il y a trop peu de cette autorégulation-là à l'intérieur des syndicats. Prochaine chose, on parle de la camisole de force bureaucratique au niveau du Québec.
La question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes. L'environnement est un bon exemple. On a actuellement des délais d'octroi de permis qui sont beaucoup trop longs. On me raconte des histoires d'horreur pour construire de simples ponceaux. Les maires du Québec qui s'en vont en élection sont imputables. Il faut leur laisser plus de marge de manœuvre. J'ai donc demandé à tous les ministres, et aujourd'hui je donne instruction à tous les ministères, tous les organismes, tous les réseaux et toutes les sociétés d'État de lever toutes les pierres, de remettre leur façon de faire en question, de trouver des façons d'être plus efficaces. Il faut changer notre mentalité d'extrême prudence et accepter de prendre des risques mesurés. Il faut libérer le Québec de cette camisole de force bureaucratique.
Ovation à nouveau!
Une autre ovation.
Camisole. Ben, premièrement, la camisole de force bureaucratique, pour moi, c'est la CAQ qui l'a serré encore plus. Fait que je trouve que c'est un constat d'échec lorsqu'il parle de ça.
Ben, ils ont rajouté de la bureaucratie d'un côté, mais en même temps, ils ont fait plusieurs projets de loi pour réduire la bureaucratie avec les entreprises.
Oui, c'est d'augmenter l'efficacité.
Bon, écoute, c'est un bilan qui est mitigé, on est d'accord. Encore une fois, tout le monde se demande pourquoi maintenant, pourquoi la dernière année?
Ouais.
Pourquoi ça n'a pas été fait
avant?
Parce
que dans les sondages, on est à 15 %.
Mais c'est ça, puis la question d'alléger la bureaucratie puis de soulever toutes les pierres, on dirait que tout le monde dit ça.
Oui.
On dirait qu'on ne voit jamais les résultats. Par contre, dans le cas de François Legault, ce discours-là, là, hier, c'était... Tout le monde a dit que c'est du réchauffé, puis les gens ont raison. Mais c'était aussi... Il voulait structurer qu'est-ce qu'il aimerait que ce soit son leg. Mm-hmm. C'est sa pensée politique. L'économie, briser les carcans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, les amis, pour François Legault. Il ne s'est pas trouvé ça cette année parce qu'il est dernier dans les sondages. Là. Il répète ces messages-là depuis extrêmement longtemps.
C'est-tu juste que là, il met de la pression à son équipe pour rassayer que ça se réalise enfin?
Ils sont authentiquement tannés de se buter à des obstacles. Tantôt, je vous parlais des obstacles syndicaux.
Mm-hmm.
Là, on parle d'obstacles dans la propre machine gouvernementale. Ils sont frustrés de voir des projets qui n'atterrissent pas et trouvent ça long. Et c'est une démarche qui est sincère. Est-ce qu'elle arrive trop tard? peut-être. Est-ce qu'il y a de la politique là-dedans? Certainement. On donne des exemples, là, encore une fois, là, qui sont anecdotiques un peu. Mais c'est une frustration qui est vraie au cabinet du premier ministre en ce moment. Ils veulent faire tomber des obstacles, que ça aille plus rapidement. Quand on fait un chantier pour un grand projet, là, on a donc peur que tout, il faut protéger la grenouille, les insectes, les arbres, il y a l'acceptabilité sociale. Il ne faudrait pas que quelqu'un se blesse sur le chantier. Fait que là, on met des réglementations supplémentaires de ci, de ça, de ça. Et là, tout ça s'accumule et pas toujours logique non plus. Ensemble, la coordination n'est pas toujours excellente. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et on a du côté du gouvernement l'intention de déposer un projet de loi équivalent à C5. Là, on parle, si on parle, par exemple, des grands projets et des obstacles qui sont plus, mettons, au ministère de l'Environnement et principalement, pour accélérer les processus, pour que ça aille plus rapidement aussi, le premier ministre Legault embarque un peu dans le train là, d'acceptabilité face que Mark Carney a à l'heure actuelle dans le cadre de la crise commerciale. Et il semblerait que ce soit Éric Girard, le ministre des Finances, pas le gars du Lac-Saint-Jean, qui va gérer chapeauter. Ce projet de loi-là, mais ce projet est chapeauté par le cabinet du premier ministre lui-même et ça lui tient énormément à cœur.
Tu penses quoi des BAP? Parce que moi, je me dis, on peut pas non plus scraper tout. T'sais, je comprends que je veux pas sauver l'hirondelle à l'île d'Orléans quand je fais le pont, mais je peux pas non plus scraper tous les milieux humides non plus qui existent.
Non, on a besoin des milieux humides en passant, les amis. Hein. C'est ça. Ça fait pas juste nuire à des projets, à des milieux humides. Non. Ça filtre notre eau.
Quand il y a ces projets de loi-là, de grands projets, OK, fine, je veux que ça aille plus vite, mais on a quand même cet outil-là qui nous permet de faire en sorte qu'on va structurer nos choses intelligemment en fonction de plein de paramètres qui sont l'économie, l'environnement, le milieu social. Donc, moi, qu'on passe constamment par-dessus, ça m'effrite. Puis je sais que je suis à contre-courant en disant
Puis les BAP, c'est ce qu'on connaît le plus, hein, parce que les gens le connaissent, mais il y a toutes sortes d'autres processus d'autorisation. C'est pas tous les projets qui font l'objet d'un BAP. Un BAP, c'est plus lourd, c'est du costaud, puis il y a des consultations, puis vous pouvez aller vous exprimer, déposer des mémoires, etc. Mais il y a toutes sortes aussi d'autres processus qu'on voit pas. Couper dans les processus environnementaux d'autorisation, ça veut pas nécessairement dire un BAP, pas de BAP. Là. Ça peut se faire autrement. Coordination entre les différents ministères aussi. Tu sais, par exemple, si moi je construis un pont à quelque part qui existe déjà, okay, il existe.
Ouais.
Puis là, l'environnement me dit, non, mais là, on veut limiter, c'est hypothétique, mais on veut limiter la quantité de sel qu'on va mettre l'hiver sur le pont. Fait que vous pourrez pas mettre de sel de tel, tu sais, pendant l'hiver parce que c'est pas bon pour tel poisson. Mais on le sait qu'à la fin de la journée, on va le construire, ce pont-là. Mais là, on niaise avec... Tu sais, des fois, c'est... Des fois, c'est une mauvaise coordination entre les ministères. Et il va y avoir aussi la notion de projet d'intérêt national qui va embarquer à un moment donné. Si le gouvernement l'identifie comme un projet d'intérêt, comme c'est le cas au fédéral, peut-être effectivement qu'à mon avis, on va passer plus vite sur certains processus environnementaux.
Ce ne sera pas mauvais en soi, mais il ne faut pas toutes les balayer du revers de la main, selon moi. C'est juste ça d'avoir l'équilibre.
Moi, Jeff, de toute façon, là, cette nouvelle affaire-là de maintenant, on s'en fout de l'environnement puis on change tous nos objectifs, je pense qu'on va revenir à l'évidence éventuellement qu'il y avait une raison aussi pour laquelle on avait mis ces objectifs-là. Oui. Là, il y a Donald Trump, on est un peu découragé, il y a une crise commerciale, l'économie passe avant tout, mais moi, je pense pas que ce virage à 180 degrés va se faire au complet parce qu'il va y avoir une levée de bouclier éventuellement. L'environnement, c'est rarement la priorité de tous les instants, puis c'est pas sur ça que les gens votent. Mais c'est pas vrai là, que tout à coup, là, ça a plus d'importance. Là.
Puis en même temps, si on n'avait pas eu de tarification interprovinces, si on n'avait pas de la fiscalité très lourde pour nos entreprises à l'heure actuelle, si on subventionnait un petit peu plus nos entreprises québécoises qu'étrangères, bien peut-être que Donald Trump nous ferait moins mal aussi.
Peut-être aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, on parle de couper dans la bureaucratie, mais si vous voulez que ça aille plus vite aussi au niveau des autorisations environnementales, puis vous coupez à moitié des fonctionnaires qui font des autorisations environnementales.
Ça pourra pas aller plus vite.
Je pense pas que ça va aller plus vite.
Non, ça passera pas dans la machine à saucisses, comme on pourrait dire. Je termine le caucus Iacarini avec la déclaration de Marois Risky sur ce qu'il manquait dans le discours de François Legault.
Or, il y avait des grands absents. Pas un mot sur les priorités des Québécois, qui sont quoi? Pas un mot sur le logement. Pas un mot pour les jeunes familles qui ont carrément abandonné le rêve d'un jour être propriétaire. Pas un mot sur la crise de l'itinérance qui sévit partout au Québec, pas juste à Montréal, là, dans les villes, dans nos villages. Vous avez tous entendu hier le maire Bruno Marchand à cet effet. Pas un mot pour nos jeunes, pas un mot sur notre jeunesse, là, dont le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Pas un mot pour eux. Pas un mot sur la qualité du français de nos jeunes en secondaire 5, alors que l'éducation devait être sa grande priorité. Il me semble qu'il aurait pu aussi nous parler de nos régions. Alors, pas un mot sur la réforme du régime forestier. Alors, sincèrement, je me pose la question suivante. Est-ce qu'elle n'a pas parlé parce que c'est pas une priorité pour lui? Est-ce qu'elle n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas de solution? Ou est-ce qu'elle n'a pas parlé parce qu'elle n'a pas encore trouvé son bouc émissaire? Ou peut-être toutes ses réponses.
Moi, ça m'a frappé hier, le logement. J'écoutais le discours du premier ministre, puis là, je me disais, OK, on sort d'une campagne fédérale où le logement était la priorité et c'était fin avril. On n'a pas réglé la crise du logement au mois de septembre, là.
Non, puis dans ses priorités, il y a le portefeuille des gens. La crise du logement,
ben c'est...
ça a un impact sur le coût des logements, des maisons, des ça joue dans votre
portefeuille.
T'as
tellement raison. Normalement, notre logis devrait nous coûter au maximum 30 % de notre... nos dépenses.
Absolument.
Mais là, présentement, il y a plein de familles qui essayent à 45, 50, 55 % à cause du coût des logements qui, par le fait même, fait augmenter le coût des propriétés
bon,
aussi.
L'autre côté de la médaille, c'est qu'à un moment donné, s'il y avait tout mis dans son discours, on aurait dit que c'était éparpillé et qu'il n'y a pas de priorité. On a tendance toujours à remarquer ce qu'on met pas. Sur l'éducation, Marois Risky le soulignait, je suis obligée de dire que ça, c'est un gros oubli parce que la CAQ nous a dit depuis le début de son existence que c'était sa priorité.
Mm-hmm.
J'ai réécouté le discours de François Legault de victoire en 2022 la semaine passée. Vous allez dire, mon Dieu, t'as pas de vie, mais c'est justement parce que je voulais comparer les deux. Et il l'a dit dans ses trois premières phrases. La priorité des priorités, ça demeure l'éducation pour nous, parce que c'est la clé pour tout le reste, pour l'économie, pour la culture, pour la... Puis là, ça a complètement été évacué. T'sais, c'est ça qui est particulier. Le dossier de la sécurité a fait son entrée.
Oui.
L'itinérance, puis la crise des opioïdes.
C'est de la sécurité.
C'est de la sécurité. On en parle tellement à Québec, justement.
Ben, parlons commerçants de Saint-Roch.
Et
là.
Voilà. Est-ce qu'on se sent en sécurité? J'étais dans Saint-Roch hier,
ah,
justement.
Ah ouais, puis? Sentais-tu en sécurité?
Pas tant, non. En sortant du resto à la fin de la soirée, je regardais au-dessus de mon épaule. Puis c'est
effet.
Pas contre les gens en passant. C'est
non,
juste
non,
que,
non.
Clairement, il y a des défis de santé mentale, puis des fois, c'est un peu imprévisible. Donc, le sentiment de sécurité est lié avec la crise de l'itinérance.
Clairement.
Aussi.
On fait une courte pause du côté de Boulevard 102.1, l'émission On en jase. Et par la suite, on va venir parler avec... le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Guillaume Michaud, coupure de 50 postes de procureurs. Quand la priorité, c'est la sécurité, Antonine? Ça sonne mal, hein? Fait comme parler des deux côtés de la bouche.
À moi qui faisais rien, ce monde-là, je sais pas.
Ben, peut-être. On va en parler avec Guillaume Michaud immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission On en jase.
Jusqu'à 4.